VOA Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington.
Bonsoir à tous, Claire Morin-Gibourg avec vous en direct du studio 9 de la Voix de l'Amérique à Washington. Bienvenue dans le monde aujourd'hui. Au sommaire ce soir, Winnie Mandela, ancienne épouse de Nelson Mandela et figure controversée en Afrique du Sud, est décédée à 81 ans. Week-end de Pâques sanglant au Nigeria suite à de multiples attaques de Boko Haram. Premier discours de réconciliation devant le Parlement pour Abiy Ahmed, le nouveau Premier ministre éthiopien. Et Israël devrait revoir sa politique d'expulsion des migrants africains après un accord avec le HCR. Également, dans un peu plus de 10 minutes, l'économie et les sports, mais d'abord, le journal. Winnie Madikizela Mandela est décédée aujourd'hui à 81 ans. En reprenant le flambeau de son mari Nelson Mandela, alors en prison, elle s'était imposée égérie de la lutte anti-apartheid. Le point avec Morgane Guiriec.
Le parcours de Nomzamo Winifred Zaniwe Madikizela, surnommée Winnie, est atypique dans la lutte contre l'apartheid. Elle a été l'épouse pendant 38 ans de Nelson Mandela. Elle est née en 1936 dans la province du Cap. Après leur mariage en 1958, Nelson Mandela entre dans la clandestinité. Restée seule après son arrestation en 1962, elle subira toutes sortes d'intimidations. Elle s'entoure d'un groupe de jeunes hommes, sa garde rapprochée, le Mandela United Football Club. Elle sera reconnue coupable de complicité dans l'enlèvement d'un jeune militant, Stompie Siaipé. En 2003, elle est condamnée une nouvelle fois pour fraude. Députée depuis 1994 et réélue à chaque élection, elle brille par son absence au Parlement. L'image du couple marchant main dans la main à la libération de Mandela en 1990 a fait le tour du monde, mais ils ont fini par divorcer en 1996. Nelson Mandela, avant sa mort en 2013, ne lui a rien légué. Furieuse, elle a engagé une bataille pour récupérer la maison familiale de Kounou et la justice l'a récemment déboutée de ses demandes. Mais pour beaucoup de Sud-Africains, elle représente le rôle important que les femmes ont joué dans la lutte contre l'apartheid.
En Éthiopie, le nouveau Premier ministre Abiy Ahmed a été investi aujourd'hui par le Parlement devant lequel il a prononcé un discours. Un discours au ton conciliant envers l'opposition et le voisin érythréen. Les précisions de John Linden.
Sans surprise, Abiy Ahmed, 42 ans, a été officiellement investi par le Parlement, entièrement contrôlé par le Front démocratique révolutionnaire des peuples éthiopiens. Celui qui prend la tête de l'exécutif éthiopien a été désigné fin mars par la coalition au pouvoir. Aux Éthiopiens qui vivent à l'étranger et aux Éthiopiens qui vivent ici, nous devons nous pardonner les uns les autres du fond du cœur, a-t-il déclaré dans son premier discours devant le Parlement, une main tendue à la fois à l'opposition et aux voisins érythréens. Pour rappel, Ali Mariam Dessalagne avait créé la surprise en démissionnant le 15 février, évoquant la nécessité de réformes face au mouvement de protestation débuté fin 2015, dont la répression a fait au moins 940 morts. Le pouvoir avait le lendemain de sa démission réinstauré l'état d'urgence. Plus de 1100 personnes ont été arrêtées, dont des membres de l'opposition, de la société civile et des journalistes. Certains seront libérés quelques mois plus tôt à la faveur d'une amnistie et d'autres ont été remis en prison. Le nouveau Premier ministre n'a toutefois pas indiqué lundi s'il comptait lever l'état d'urgence, une mesure qui, pour beaucoup, traduirait dans les faits ses déclarations d'apaisement.
En Somalie, 5 militants islamistes Chebab ont été tués hier à El Bour, à 400 km au nord-est de Mogadiscio, lors d'une frappe aérienne menée par l'armée américaine. Selon Africom, le commandement américain pour l'Afrique, un véhicule a été détruit et aucun civil n'aurait été tué. Au Burundi, 2 membres des Imbonerakure ont été tués et 14 autres blessés par l'explosion d'une grenade hier soir. La Ligue des jeunes du parti au pouvoir a été qualifiée de milice par l'ONU. 2 suspects ont été arrêtés selon la police burundaise. 15 personnes ont été enlevées à la suite d'une attaque de la LRA hier à Kobu en Centrafrique. Après une riposte conjointe des forces armées centrafricaines et de la MINUSCA, les otages ont été libérés. Toutefois, une dizaine de personnes sont toujours portées disparues. Au moins une vingtaine de morts dans le nord-est du Nigeria. Boko Haram a multiplié les attaques pendant le week-end de Pâques à Maïdougouri, qui abrite des centaines de milliers de déplacés dans l'état de Borno. Le point avec Ekiabadou.
La nuit dernière, les habitants de Maïdougouri ont été secoués par des séries d'explosions et de tirs qui ont duré au moins une heure. Il y a au moins une vingtaine de morts et plus de 80 blessés, et ce bilan peut s'alourdir. Vendredi, quatre adolescentes kamikazes ont attaqué le camp de déplacés de Zayouya, aux environs de Maïdougouri, tuant deux personnes. Dimanche soir, les combattants ont tenté une incursion dans la même ville, réussissant à traverser les murs et les fossés qui entourent la cité de près de 3 millions d'habitants. Dans les quartiers périphériques de Baléchouya et Balékoura, des personnes ont perdu la vie alors qu'elles essayaient de fuir les échanges de tirs entre les insurgés et les militaires. Les combattants sont arrivés à pied pour attaquer la base militaire en utilisant des kamikazes, des armes à feu et des bombes. Cette série d'attaques est une manière pour Aboubakar Shekou de montrer sa démarcation une semaine après que le gouvernement d'Abuja ait annoncé la tenue de négociations avec une aile dissidente de Boko Haram.
L'ONG SOS Méditerranée tape du poing sur la table. Les conditions de sauvetage de migrants sont devenues inacceptables, selon elle. Samedi, après des négociations tendues avec les gardes-côtes libyens, l'ONG n'a pu secourir que les cas les plus vulnérables sur une embarcation surchargée. 39 personnes, dont des enfants, un nouveau-né et des femmes enceintes, ont pu être évacuées sur son navire Aquarius, mais 90 personnes ont été renvoyées en Libye. En Égypte, l'Autorité nationale des élections a publié les résultats définitifs de l'élection présidentielle. Le président sortant, Abdel Fattah al-Sissi, a été réélu pour un second mandat de 4 ans avec 97,08% des voix, mais avec une faible participation. Seulement un peu plus d'un électeur sur trois a voté, soit 41,5%. Dans un communiqué, le département d'État américain s'est dit impatient de continuer à travailler avec le président Sissi.
VOA Afrique à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Le reste de l'actualité dans le monde, Israël a annoncé qu'il va annuler son plan d'expulsion des migrants africains après avoir conclu un accord avec le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés. Cet accord doit permettre l'accueil de plus de 16 000 personnes dans des pays européens. Le point avec Irénée Herman Ungbo.
En Israël, le sort de quelques 37 000 immigrés africains pose un problème moral et un devoir de mémoire. Le pays est connu pour être le refuge des juifs contre la persécution. Le gouvernement subit des pressions de son électorat ultranationaliste pour chasser ces migrants, tandis que d'autres réclament leur prise en charge. En février, Israël a demandé à 20 000 migrants africains, notamment des hommes, de quitter le pays ou aller en prison. Le gouvernement Netanyahou a offert à ces migrants, majoritairement des Soudanais et des Érythréens, 3 500 $ et un billet d'avion pour une destination en Afrique subsaharienne. Cependant, la Cour suprême israélienne a interdit l'application de la mesure. Israël et le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés ont fini alors par trouver un accord pour envoyer au moins 16 250 migrants dans des pays occidentaux, notamment vers le Canada, l'Allemagne et l'Italie.
En Syrie, les forces de Bachar el-Assad se rapprochent d'une victoire dans la Ghouta orientale. Les rebelles ont commencé à évacuer leurs dernières enclaves dans cet ancien bastion insurgé aux portes de Damas. L'aviation afghane a mené un raid aérien contre une école coranique de Kunduz dans le nord-est du pays, où se déroulait une remise de diplôme en présence de responsables talibans et de nombreux étudiants. Le bilan est encore incertain, mais on redoute de nombreuses victimes civiles. La Chine impose des taxes sur 128 produits américains sur des importations majeures chinoises. Pékin réplique aux taxes américaines sur l'acier et l'aluminium annoncées le 22 mars par le président Donald Trump. Ici aux États-Unis, plusieurs milliers d'enseignants manifestent pour revenir sur les taxations sur l'acier et l'aluminium, écoutons le papier d'Eric Manirakiza.
Les nouvelles taxes chinoises portent sur des produits divers allant des fruits à la viande de porc. La liste de tarifs sera rendue publique prochainement, mais Pékin va épargner des produits agricoles majeurs, notamment le soja, et des compagnies industrielles importantes, en l'occurrence le géant Boeing. Ces mesures de rétorsion font craindre une escalade vers une guerre commerciale entre les deux géants économiques de la planète. L'administration Trump a imposé des droits de douane sur les importations d'acier et d'aluminium au nom de la sécurité nationale. Le ministre américain du Commerce, Wilbur Ross, a fait valoir jeudi que les sanctions américaines étaient avant tout un prélude à une série de négociations. Le ministère chinois du Commerce, de son côté, qualifie d'abus la décision de Washington et contraire au principe de non-discrimination du fondement du système commercial multilatéral. Le quotidien officiel Global Times estime que Washington va payer le prix de sa politique commerciale radicale envers la Chine.
Voilà pour le journal. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique et voafrique.com. L'essentiel de l'actualité économique en Afrique, c'est la Minute Éco, présentée ce soir par Eric Manirakiza.
L'Afrique du Sud contribue énormément à la vigueur du flux commercial intra-africain. En 2016, Pretoria a atteint 23% du volume total. Le reste du continent lui fournit près de 40% de ses recettes d'exportation agricole et plus de la moitié de ses besoins en carburant et en énergie. En 2015, le Nigeria a satisfait 53% de sa consommation en gaz et pétrole. En Afrique subsaharienne, la corruption foncière affecte plus les femmes. Elles sont fortement dépendantes à la terre, qui constitue une source de revenus. D'après Transparency International, cette situation s'observe au Cameroun, au Ghana, au Kenya, au Liberia, à Madagascar, en Sierra Leone, en Ouganda et au Zimbabwe. Les femmes sont souvent exclues des négociations sur les terres et des discussions communautaires avec des investisseurs pour des ventes de terrains potentiels. De plus, elles ne reçoivent pas leur juste part de la compensation pour les terres acquises par des parties externes. Les légumineuses constituent le potentiel pour une agriculture durable en Afrique subsaharienne.
Et maintenant, la page sport, présentée ce soir par Nicolas Pinault. Bonsoir Nicolas.
Bonsoir Claire, bonsoir à tous.
Veillée d'Armes en Ligue des Champions avant les premiers quarts de finale.
Et oui, l'affiche entre la Juventus Turin et le Real Madrid lance en majesté les quarts de finale aller de la Ligue des Champions, ce sera demain. Lors de ces quarts de finale, le Bayern Munich devra se méfier de Séville en Andalousie. Juve-Real, c'est la finale de la saison dernière lorsque le club espagnol s'était imposé 4-1. Mais l'équipe de Massimiliano Allegri est la dernière à avoir éliminé le Real lors des demi-finales 2015. Cette rencontre de gala, c'est aussi le retour de l'entraîneur madrilène Zinedine Zidane à Turin où il a joué. Et ce match mettra également aux prises un club italien deux fois finaliste en trois ans face au double tenant du titre espagnol. Autre rencontre mardi dans l'ombre de cette affiche, Séville-Bayern Munich. A priori un match déséquilibré, les Munichois à l'effectif plein d'étoiles en sont à leur 7e quart de finale d'affilée. Quant aux Andalous, sans grande star, ils disputent leur premier quart de finale de la Ligue des Champions depuis, tenez-vous bien, 1958.
Premier tour des éliminatoires de la CAN des moins de 20 ans.
Notons la bonne performance du Burundi qui est allé battre l'Éthiopie sur la marque de 2-0. Le Gabon a pris le large à domicile 4-0 devant le Togo. Et puis la Guinée-Bissau s'impose 1-0 à domicile face à la Sierra Leone. Le match nul un but partout entre le Kenya et le Rwanda. Les Lionceaux de l'Atlas se sont mis en danger puisque les Marocains se sont inclinés 2-0 face à la Mauritanie. Par contre à domicile, l'Algérie a tenu son rang dominant la Tunisie 3-1. Large victoire 5-1 de l'Ouganda face au Soudan du Sud. Pour le reste, match nul 0-0 entre la Tanzanie et la RDC à Dar es Salaam. Même score entre les Seychelles et le Mozambique, tout comme le Botswana face à la Namibie. 0-0 également entre le Malawi et le Swaziland. A noter que le Bénin est qualifié suite au forfait du Liberia. Les écureuils juniors qui affronteront au second tour la Gambie.
Et quelques résultats de la NBA, le championnat de basket nord-américain.
Houston est tombé de son nuage à 2 semaines du coup d'envoi des playoffs après sa nette défaite 100-83 sur le parquet de San Antonio qui de son côté a fait un grand pas vers la qualification. À l'ouest toujours, Kevin Durant a relancé Golden State qui restait sur 3 défaites consécutives à domicile avec 29 points et 11 rebonds contre Phoenix, une victoire 117-107. Oklahoma City a quasiment son billet pour les playoffs en poche après s'être imposé à la Nouvelle-Orléans 109-104. Denver vainqueur après prolongation de Milwaukee 128-125. Utah a décroché une victoire capitale 121-97 face à un adversaire direct Minnesota. En revanche, les Clippers de Los Angeles ont sans doute dit adieu aux playoffs après leur défaite à domicile face à Indiana 104-111. Enfin, à l'Est, tout va bien pour Cleveland qui est venu à bout de Dallas 98-97.
Merci Nicolas. Vous êtes toujours à l'écoute du monde aujourd'hui sur VOA Afrique. Place au dossier du jour. Winnie Madikizela Mandela est décédée, donc aujourd'hui, à l'âge de 81 ans, des suites d'une longue maladie dans un hôpital de Johannesburg. Elle était la seconde épouse de Nelson Mandela, le premier président noir d'Afrique du Sud. Femme très engagée, elle militait au sein de l'ANC aux côtés de son mari et sans relâche durant les 27 années de prison de celui-ci. Pour revenir sur l'héritage de Winnie Mandela, Jacques Aristide s'est entretenu avec Kofi Kwaku, maître de conférence à Wits University de Johannesburg.
Ben évidemment, c'est une figure illustre qui a vraiment combattu contre l'apartheid. Elle a subi des pressions, des traumatismes, des dépressions et de l'oppression et tout ça. Donc c'est un symbole vraiment très important pour pas seulement l'ANC, mais la libération de l'Afrique du Sud et surtout en Afrique australe où cette libération, ce que les gens appellent en anglais le struggle, c'est-à-dire la lutte pour l'émancipation s'est passée. Elle reste une figure très importante et c'est vraiment dommage qu'elle elle meure. Mais bon, comme tout le monde, il faut quand même passer le temps et les gens sont obligés de mourir. Mais elle reste un symbole très important.
Mais elle était controversée. 1986, elle appelle à libérer le pays avec des allumettes. 1992, elle est accusée de corruption et mauvaise gestion. Elle est démise de ses fonctions à l'ANC. Ces polémiques ont-elles terni son image de militante aux côtés de Nelson Mandela?
Non, pas du tout. Pour pour ses supporters, elle reste toujours un symbole très important. Par exemple, vous avez ici Julius Malema, un jeune, le jeune cacique comment ça s'appelle, ce qu'on appelle IFF, des groupes d'un nouveau parti, qui est très jeune, qui est aussi très fort dans les questions de liberté économique, qui est, en fait, elle était... Elle restera toujours le symbole et la parraine de Julius Malema. Donc elle a toujours beaucoup de gens qui la supportent. C'est vrai que son image a été un peu ternie, mais elle reste toujours très 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 supportée en Afrique du Sud.
Qu'est-ce que cela signifie pour l'Afrique du Sud et pour peut-être de jeunes militants, etc. Donc qu'est-ce que cela représente?
Ben, écoutez, pour nous, pour les gens aussi, les jeunes militants en Afrique, nous les observateurs et même tous les autres, c'est... Vraiment une page, une ancienne page qui est tournée. Et en fait, il y a eu beaucoup de débats, il y a toujours beaucoup de débats en ce moment en Afrique du Sud sur les questions de génération. C'est-à-dire que les anciens, ceux qui ont lutté pour la paix et la libération en Afrique du Sud, doivent maintenant laisser la place aux jeunes loups qui doivent, eux, décider du futur de l'Afrique du Sud. Donc, sa mort permettra quand même de tourner la page, mais aussi de regarder un peu vers le futur parce que l'Afrique du Sud a vraiment besoin de nouveaux leaders, d'une nouvelle jeunesse et d'une nouvelle idéologie qui lui permettra de vraiment tourner la page et de faire beaucoup plus de regarder vers le futur plus que de regarder surtout vers le passé.
Kofi Kwaku, maître de conférence à la Wits University de Johannesburg.
Bonjour, c'est Nathalie Barge. Juste un petit mot pour vous dire de ne pas manquer le monde au féminin à 19h05, temps universel, ce mardi, juste après les nouvelles. L'invitée de LMF est Christiane Minoki Ekambo, journaliste congolaise, fondatrice du journal en ligne Le Journal des Nations. Membre de l'Union internationale de la presse francophone, notre consoeur travaille dans la presse écrite en RDC depuis 25 ans. Le Monde au féminin, c'est tous les mardis et samedis à 19h05, temps universel, sur VOA Afrique. Vous pouvez également nous suivre sur Facebook ce mardi. A plus tard.
Au Niger, le président Mahamadou Issoufou a estimé la loi de finances 2018 était contestée par une minorité de Nigériens et qu'elle répond aux aspirations du peuple. Des déclarations qui ne plaisent pas du tout à la société civile qui a appelé à une journée pays mort ce lundi. Une nouvelle manifestation contre la loi de finances est programmée le 8 avril prochain. John Lyndon a joint Tcherno Hassan Bouama, le directeur des programmes de l'Alternative Espace Citoyen à Niamey.
C'est une action qui a été projetée par le pacte de concertation des organisations de la société civile qui est engagé depuis plusieurs mois dans un vaste mouvement visant à demander l'annulation des mesures antisociales contenues dans la loi de finances 2018. Il y a eu déjà par le passé plusieurs mobilisations dans tous les pays. Donc aujourd'hui, nous avons observé l'évaluation de l'opération pays mort qui a été enclenchée. Et selon l'évaluation à chaud que nous venons de faire, dans au moins 4 régions du pays, à savoir la région de Tillabéri, Niamey, Dosso et Zember, où le mot d'ordre a été lancé par nos représentants là-bas. L'évaluation que nous faisons est satisfaisante.
Qu'est-ce que vous attendez concrètement du gouvernement?
Nous attendons du gouvernement qu'il révise le contenu de cette loi dans la mesure où nous avons, à l'époque, au moment où il était en examen devant l'Assemblée nationale, été reçu par la commission saisie au fond sur cette question, la commission des affaires sociales, et nous avons fait des propositions, des recommandations pour retirer les mesures que nous jugeons les plus antisociales. Parce que l'idée du gouvernement ici, c'est de prendre encore plus d'argent dans les poches des citoyens qui sont déjà précarisés. Et nous demandons également au gouvernement de réduire son train de vie. Vous savez que nous avons l'un des gouvernements les plus rhétoriques de la sous-région. Et donc, il y a un certain train de vie de l'État que nous avons des institutions également qui sont très budgétiques. Tu vois, tout ça, les Nigériens ne comprennent pas comment un pays qui est tracé depuis plusieurs années, dernier en termes d'indice du développement humain du pays, peut se doter d'un gouvernement avec une telle taille, peut avoir des institutions aussi budgétivores. Je pense, quand je le dis au Conseil économique et social, à la médiature, dont les Nigériens ne voient pas l'impact du travail.
En quelques mots, est-ce que d'autres actions sont prévues dans le futur?
Le 8 avril, il est prévu une marche dans tous les pays pour continuer la mobilisation continue, non seulement pour demander la libération de nos camarades, les 22 qui ont été arrêtés et incarcérés dans différentes régions du pays, mais aussi pour amener le gouvernement à se plier aux demandes de ses citoyens.
Tcherno Hassan Bouama, directeur des programmes de l'Alternative Espace Citoyen à Niamey. En RDC, la situation d'insécurité dans le territoire de Djougou affecte l'économie de la province d'Ituri. Au marché de Bounia, les prix de certaines denrées alimentaires ont doublé, voire même triplé. L'insécurité et le déplacement de la population risquent de créer une situation de famine selon la société civile en Ituri. Le reportage de Charlie Kasereka, l'envoyé spécial de VOA Afrique à Bounia.
Les légumes, fruits, les poissons et autres produits des champs deviennent de plus en plus rares sur les marchés et leurs prix ont doublé, comme par exemple les poissons et les maniocs, nourriture de base pour les Ituriens. Au grand marché, les vendeuses des poissons du lac Albert, situé à une trentaine de kilomètres de Bounia, déplorent les tracasseries, pillages et kidnappings sur la route depuis un certain temps. L'une d'elles raconte son histoire à VOA Afrique.
Sur la route, il y a maintenant beaucoup de problèmes. Pillage, tuerie. Avant, c'était facile d'écouler 150 à 180 kg. Aujourd'hui, difficile de vendre même 100 kg. L'argent ne circule plus.
Pour les ménagères, difficile de remplir leur panier et satisfaire tous les enfants à la maison. Angèle, mère des 4 enfants, est venue acheter du poisson ici au marché.
Je suis venue acheter les poissons, les demi-kilos. Ça coûte 3000 francs. Avant, ça coûtait 1500 francs. Beaucoup les gens de l'intérieur qui nourrissent Bounia sont déplacés suite à l'insécurité.
L'inspecteur de l'agriculture, pêche et élevage redoute des conséquences négatives sur la sécurité alimentaire si la situation perdure. Locadi Bonaventure.
On doit avoir perdu plus de 50% de la production. Ce qui fait qu'avec un 5 dollars, une maman ne peut pas satisfaire son panier ménager et puis bon, ça crée des problèmes.
La société civile appelle à un rétablissement rapide de la sécurité dans la région de Djougou et va jusqu'à demander même la démission du gouverneur d'Ituri. Jean Bosco Lalo est le coordonnateur des activités de la société civile ici en Ituri.
Que le gouverneur actuel soit relevé de ses fonctions parce que finalement on se retrouve devant une personne qui n'est pas à mesure de faire avancer la province, qui n'est pas à mesure de sécuriser sa population. Et nous avons demandé dans nos documents de plaidoyer que d'ailleurs Djougou et même Ituri soient déclarés comme une zone sinistrée au vu des drames qu'on a connus.
L'armée congolaise dit mener actuellement des opérations de ratissage sur les terrains pour favoriser les retours des déplacés. Avec une population estimée à plus de 600 000 habitants, la ville de Bounia, chef-lieu de la province d'Ituri, vit des moments difficiles avec un afflux de plus de 50 000 personnes venues de Djougou et qui vivent dans des cas de déplacés et d'autres dans des familles d'accueil. Charlie Kassereka, à Bounia, à Ituri, VOA Afrique.
Retrouvez-nous sur VOA Afrique à Lubumbashi, c'est sur 102.8 FM en République démocratique du Congo.
Le président américain Donald Trump appelle à un durcissement des lois sur l'immigration. Il a assuré qu'il n'y aurait pas d'accord sur les Dreamers, ces immigrés entrés illégalement aux États-Unis lorsqu'ils étaient mineurs. Le point avec Idriss Fall.
C'est par une salve de tweet que le président Donald Trump a appelé dimanche à un durcissement des lois d'immigration, ajoutant qu'il n'y aura aucun accord sur les bénéficiaires du programme DACA qui protégeait de la déportation ces jeunes immigrés entrés illégalement aux États-Unis en compagnie de leurs parents. Les gardes-frontières ne peuvent pas faire normalement leur travail à cause des lois libérales ridicules comme celles qui permettent d'arrêter puis relâcher, a écrit le président américain. Il a ajouté que des caravanes d'immigrés clandestins sont en train d'inonder la frontière en paraphrasant un bandeau de la chaîne Fox News. Dans un autre tweet, M. Trump accuse le Mexique de faire très peu ou de ne rien faire pour arrêter ce flux de migrants vers les États-Unis. Il a même menacé de mettre fin au traité de l'ALENA, l'accord de libre-échange en Amérique du Nord. En se rendant à l'église pour les fêtes de Pâques, M. Trump est revenu à la charge.
Le Mexique doit nous aider à la frontière. S'ils ne vont pas nous aider à la frontière, c'est une très mauvaise chose entre nos deux pays. Le Mexique doit nous aider à la frontière et beaucoup de gens sont en train de venir pour profiter du programme. Ils avaient une grande chance, mais les démocrates l'ont fait sauter. Ils avaient une très grande chance, mais nous allons voir de plus près.
Le programme DACA a été mis en place par l'administration Obama. Il protégeait de la déportation des enfants amenés illégalement aux États-Unis par leurs parents. Ils pouvaient rester sur le sol américain pour étudier ou travailler. En septembre dernier, l'administration Trump a mis fin à ce programme. Il avait donné 6 mois au Congrès pour trouver une solution définitive à ceux qu'on surnomme les « Dreamers ». Au début, le président Trump avait dit qu'il serait d'accord pour protéger ces migrants clandestins si, en échange, le Congrès accepte de financer le mur le long de la frontière avec le Mexique. Finalement, malgré tous les compromis entre républicains et démocrates, le récent budget fédéral signé par le président Trump de l'ordre de 1300 milliards de dollars ne mentionne pas du tout une quelconque protection pour ces Dreamers. Ils sont toujours en sursis car des juges fédéraux ont ordonné à l'administration Trump de garder certaines parties du programme DACA en attendant une décision de la justice américaine.
1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9. Salut les amis, ici Roger Moutou sur VOA Afrique. Restez branchés ce soir dans RM Show à 20h, temps universel. Au menu, le top 10 American Music, les nouveautés de la musique américaine. Vos commentaires sur votre page Facebook, Roger Moutou, la voix de l'Amérique. Et vos SMS au 225-58-9240. Je répète, 225-58-9240. Ne ratez pas votre émission interactive RM Show chaque soir à 5h, temps universel sur VOA Afrique. P. Peace Africa.
C'est la fin de cette édition. Merci de votre fidélité à la mise en onde. Georges Léonard Sagnot à la console. Joe Gill au micro. Claire Morin-Gibourg. Ainsi va le monde aujourd'hui. Pour plus d'informations, 24 heures sur 24, un seul site internet, voaafrique.com, bien sûr, sans oublier notre page Facebook. Je vous souhaite une excellente soirée à l'écoute de nos programmes.
Vous écoutez Le Monde Aujourd'hui, diffusé partout en Afrique francophone. N'Djamena sur 93.1 FM, Kledou FM Bamako, Raga FM Goma, 96.5 Fraternité FM, Parakou Bénin et bien d'autres encore, sans oublier sur Ondes Courtes. Le Monde Aujourd'hui sur VOA Afrique.